On va prier ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole vivante. En Jésus-Christ, merci de toucher, de transporter nos cœurs. Par ta parole, nous voulons nous ouvrir à ton action, à ton onction. Alors, merci de rendre vivante ta parole au milieu de nous. Amen. J'aimerais ce matin faire un plaidoyer pour la vie de l'esprit, pour la vie de résurrection. Et si j'avais un titre à donner, ce titre, ce serait « Entrer dans le fleuve de la vie » ou « Entrer dans le fleuve de l'esprit ». J'aimerais lire avec vous dans le psaume 46, les 8 premiers versets. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Une semaine où c'est toujours d'actualité. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Les éléments de la création peuvent se déchaîner de multiples manières. Les nations peuvent se révolter, s'agiter contre Dieu. Est-ce qu'il y a un endroit en Dieu où on peut trouver un refuge, un appui, un secours? Et je crois que nous l'avons dans le cœur du Père, en Jésus-Christ. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Est-ce que ce fleuve de vie de Dieu peut venir réjouir nos cœurs? Est-ce qu'il y a un endroit en Dieu où coule, où il y a une source, un torrent, une rivière, un fleuve, non pas des éléments déchaînés, mais quelque chose qui peut nous apporter la paix, la joie, la sécurité? C'est une image de la présence de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de fleuves qui sortent de la présence de Dieu. C'est quelque chose de très fort. Dans la Genèse, en Éden, dans le premier jardin, il y a deux arbres, un arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a un fleuve qui se sépare en 4 bras. Je vous donne leur nom. Il y en a un surtout qu'on a retenu, les autres, le Pichon, Guillon, l'Idékel. Je pense que personne ne se rappelait de ces trois-là. Par contre, le quatrième, c'est le Frat. Là, on arrive déjà à mieux saisir. Dans le pays d'Israël, il n'y a pas de grand fleuve, mais il y a en tous les cas une grosse rivière, le Jourdain. Elle était une limite et elle a servi de passage pour la conquête du pays. Elle a été un lieu de baptême, de purification, d'engagement spirituel pour Jean le Baptiste, pour Jésus et pour bien d'autres. Dans les psaumes, si vous prenez une concordance et que vous recherchez le mot torrent, source, rivière, fleuve, vous verrez que c'est un thème qui est très très riche. On le retrouve aussi chez les prophètes, surtout chez les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, énormément de textes qui nous parlent de fleuves, qui nous apportent la présence de Dieu. Un autre fleuve, je vous disais, hein, si vous lisez depuis Genèse 2, 3, jusqu'à l'Apocalypse, pour vous dire voilà, que l'Écriture en parle, On lit ensemble un texte dans Apocalypse au chapitre 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le verront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il nous tarde peut-être que ces textes s'accomplissent, mais en attendant qu'ils s'accomplissent, il y a un fleuve qui jaillit du trône du cœur de Dieu en Jésus-Christ et qui est orienté vers les hommes. Est-ce que nous avons envie de le trouver ? Est-ce que nous avons envie d'y entrer ? Est-ce que nous avons envie de vivre avec la puissance de ce fleuve ? Et les questions de guérison, je suis toujours attentif à ces textes où il parlait d'arbres. Je ne sais pas s'il y aura besoin de jardiniers pour ces arbres sur les deux bords du fleuve. Mais en tous les cas, ils apportent quelque chose aux êtres humains. Ils apportent la guérison. Le monde d'aujourd'hui a besoin de cette révélation, a besoin de ces textes. Nous sommes toujours dans le temps des nations. Et puis, que ce soit dans les éléments de la création, que ce soit dans les armées des hommes, il y a des bruits de guerre, ça bouge de partout. Ce texte apporte bien sûr une perspective prophétique. Il y a des choses qui sont que dans le futur, mais est-ce que ça peut être déjà un début de notre héritage ? De pouvoir entrer et se laisser porter par le fleuve de Dieu. Il y a une conclusion à ce livre de l'Apocalypse. Au même chapitre, les versets 16 et 17, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Il y a un fleuve de vie qui sort du trône du cœur de Dieu en Jésus-Christ et qui veut animer, ressourcer nos vies. Ce texte est un peu solennel. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ces choses se réaliseront. Tous ceux qui sont Jésus-Christ, un jour, verront ce grand fleuve sortir du cœur de Dieu. Puis là, on ne se posera plus la question de savoir s'il faut y entrer ou qu'est-ce qu'il faut faire. Mais déjà, gratuitement, il y a un fleuve de vie, un fleuve de l'esprit qui coule et qui sort du cœur de Dieu. Est-ce que c'est simplement une image ? Est-ce que c'est la réalité dans nos vies ? Est-ce que c'est une réalité spirituelle ? Est-ce que c'est une belle parabole qui est dans l'Écriture, mais c'est pour les temps futurs ? Ou est-ce quelque chose de ce fleuve de vie, de ce fleuve de l'esprit peut atteindre nos cœurs, nos vies ? Mercredi soir, Francine, dans sa méditation, nous parlait de l'importance d'être rempli de l'Esprit et rempli de la parole de Dieu. C'est s'être dans le fleuve de vie, dans le fleuve de l'Esprit. On a une belle illustration dans un des prophètes. Je vous propose de lire dans Ézéchiel au chapitre 47. C'est un des grands textes sur le fleuve. On va lire les 12 premiers versets. Je vais essayer de le lire bien fort, soyez attentifs. Je vais essayer de le lire pas trop vite, que chacun puisse vraiment entrer dans ce texte. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent collera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis Engedi jusqu'à Englaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses, ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas. Leur fruit n'aura pas de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » C'est un texte prophétique des choses à venir. Si vous êtes curieux, pour le moment, à Jérusalem, il n'y a pas encore de rivières et de fleuves. Donc s'il y a un temple, c'est encore quelque chose à venir. Mais je crois que spirituellement, c'est une réalité spirituelle. Il y a quelque chose déjà maintenant qui coule du cœur de Dieu. Christ sur la croix, son côté droit a été percé. Il en a coulé du sang et de l'eau. Du trône de Dieu, du trône de l'agneau, coule un fleuve de vie, un fleuve de l'esprit. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le prophète Ézéchiel est appelé à y entrer pas à pas. Il est ici, hein. Il fait un pas. Il en a jusqu'au cheville. Il continue à marcher, il en a jusqu'au. Et après, j'aime pas l'eau froide, donc je vais moins nager qu'avant. Mais je vous laisse imaginer la scène. Jean-Marc Dilt, tu m'as jamais vu dans l'eau ? Moi aussi, non. L'eau est froide, je mets un pied. L'eau est chaude. L'important n'est pas la température. Mais cet acte de foi que Dieu me demande. Avancer en pleine eau. Je crois que la semaine dernière, il y a eu une parole prophétique qui disait avance un pas à la fois, un pas après l'autre. Je l'ai noté. Hein. Le Seigneur d'avancer te demande d'avancer un pas après l'autre. Je pourrais le relire si quelqu'un est... Est-ce que je suis prêt à avancer dans ce fleuve de vie, cette vie de résurrection, ce fleuve de l'esprit, d'être accompagné un pas après l'autre. Est-ce que j'ai envie de me mouiller pour vivre avec Dieu ? Jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, et aller plus loin dans la vie de l'esprit. Plus loin dans la vie de l'esprit. C'est pour tous. Dieu veut que son fleuve de vie atteigne chacun. Tous les hommes, toutes les femmes, tout le monde est invité à entrer dans ce torrent de la vie de l'esprit. 1000 coudées, c'est environ 500 mètres. Donc là, le prophète va marcher 4 fois 500 mètres. Vous êtes tous bons en calcul, hein, ça fait 2 km. Un peu comme au fort bloqué, quand on peut marcher dans l'eau longtemps avant de... ou à Quiberon. On voit les pêcheurs, c'est... on peut avoir une image de ce que c'est là. Aller jusqu'à nager en Dieu, en Christ. Pouvoir aussi avoir accès à ces arbres fruitiers, tellement extraordinaires. Au bord de cette vie de résurrection, au bord de cette vie spirituelle, il y a des arbres, il y a des fruits, il y a des choses pour la guérison des nations, pour la guérison de nos vies. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est vrai que Dieu nous propose d'entrer dans ce fleuve de vie spirituelle ? Je disais tout à l'heure à Jérusalem, j'étais vérifié il y a 2 ans, pour le moment il n'y a que des sources souterraines. Je les ai visitées, on est dans des conduits, dans des tunnels. Mais l'Écriture dit de manière prophétique qu'un jour Jésus va revenir, ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers et quelque chose, une source va s'ouvrir. Pour le vérifier, je vous propose de lire un texte dans le prophète Zacharie, au chapitre 14, les versets 8 à 10. C'est un projet qui est dans le cœur de Dieu que d'aller toucher les hommes avec un fleuve de vie. Zacharie 14, 8. « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été-hiver. » De Jérusalem, depuis la Méditerranée jusqu'au Jourdain, il va y avoir un fleuve de vie qui va régénérer tout ça. « L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, etc. » Je vous lis le verset 4 aussi, je ne l'ai pas lu. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. » Voilà, etc. C'est un texte prophétique, c'est des choses à venir. Mais est-ce que Jésus peut déjà poser ses pieds, ses mains, son être entier sur nos cœurs, sur nos vies? Est-ce qu'il peut faire une brèche dans nos cœurs, dans nos vies, pour en faire sortir ce fleuve, cette rivière, ce torrent, qui touche nos vies et qui veut toucher les autres? Est-ce que dans cet aspect prophétique, il peut y avoir une réalité spirituelle pour chacun d'entre nous? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ce torrent, cette rivière, ce fleuve d'eau vive? Est-ce que nous sommes prêts à y entrer? Allez, c'est déjà 3 pas. Jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins. Le prophète, là, il fait 2 kilomètres. Est-ce que je suis prêt à marcher vers le Christ Jésus, puis lui dire, ouais, viens, fais de ma vie une source. Que ce cœur qui est brisé, que ce cœur où il y a une brèche, vient l'habiter. C'est peut-être dans nos difficultés les plus fortes, les plus grandes, les plus profondes, que Dieu va faire jaillir quelque chose de nouveau, une vie de résurrection, une vie de l'esprit, un fleuve de vie. C'est en tous les cas ce que Jésus a proposé à ceux qu'il a rencontrés. Je vous lis juste comme ça de ces textes, de cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine. C'est des textes que l'on connaît, mais c'est bien de les relire ensemble. Jean 4, 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Est-ce que j'ai envie que mon cœur, dans ses brèches, dans ses failles, dans ses brisures, accueille cette eau vive? Verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Est-ce qu'on veut rejoindre déjà ce grand fleuve qui s'apprête à couler? Qu'au-delà de quelque chose de prophétique, ça devienne une réalité dans nos vies. Jean 7, 37, le lendemain, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus est glorifié. Un fleuve d'eau vive coule du cœur de Dieu, du trône, du cœur de l'agneau. Son corps, son cœur a été percé, son côté a été percé pour que, voilà, de ses eaux, de ce sang, de la parole, de la rédemption qui est en Christ, naisse quelque chose de nouveau dans nos vies. Est-ce que je veux me laisser prendre par la main et faire ses pas jusqu'à la cheville, jusqu'au genou, jusqu'au rein? J'aimerais lire avec vous dans Jean au chapitre 11. Les versets 24 à 27, c'est la rencontre de Jésus avec la famille de Lazare, avec Marie, avec Marthe. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Il s'agit de Lazare. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus s'adresse à Marthe et lui dit, crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Jésus se proclame comme la résurrection et la vie. Et il va se affronter ou se confronter avec Marthe, elle dit, mais oui, Seigneur, je sais. Il dit, c'est bien de savoir. Mais il lui dit, est-ce que tu crois? Quelle est notre foi ce matin? Est-ce que cette promesse de Jésus à la Samaritaine, cette promesse à tous les croyants, de votre sein coulera un fleuve d'eau vive qui ira jusque dans la vie éternelle? Est-ce que nous sommes prêts à laisser entrer par les brèches, par les failles, dans nos cœurs brisés. Cette onction, cette action de Dieu par son esprit. Jésus essaie toujours d'aller un petit peu plus loin avec chacun. Il va titiller Marthe et puis lui dit « Oui, ok, tu sais, crois-tu cela ?» Et puis il l'amène à faire un pas. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui devait venir dans le monde. Oui, Seigneur, je crois que tu as une vie de résurrection, une vie nouvelle. Je crois que tu as une vie de l'Esprit forte, puissante pour moi. » Ça s'appelle une prise de position. Un pas, deux pas, trois pas, apprendre à nager dans l'esprit. Oui, Seigneur, je crois. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que le Christ Jésus est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Et tu entreras aussi dans quelque chose. Ça s'appelle validation. Valider notre foi. Tous ceux vers qui Jésus a été, il s'adresse à eux toujours de manière très respectueuse. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu crois à la parole que je vais te dire? Ce matin, une parole a été donnée, une parole forte. Certains y ont répondu. Valider, c'est entrer dans l'expérience de rendre vivant cette parole de Dieu. Aussi cette action, cette onction de l'Esprit. Dans le texte d'Ézéchiel, on voit que l'ange accompagne Ézéchiel pendant tout ce parcours. Il le fait marcher, il le fait faire le tour, il lui montre, il lui pose des questions, il l'accompagne. Le Seigneur, par sa parole, par son esprit, veut nous accompagner dans nos vies pour avoir cette vie spirituelle abondante. Il me fit traverser l'eau. Nous ne sommes pas seuls dans nos expériences spirituelles. Nous sommes accompagnés par l'Esprit, par la parole de Dieu. Pour moi aussi, on ne sécurise un parcours spirituel que par l'Écriture. Mais il y a aussi tous les services dans l'Église qui peuvent accompagner pour avoir cette vie de l'Esprit. Un pas, deux pas, trois pas. Après, on peut y mettre des images. Peut-être qu'on n'aime pas nager, on préfère peut-être voler, être porté par des courants d'air, par le vent. Ce sont des images multiples. Hein. Il est parlé là d'être porté par l'eau, d'être porté par le vent, d'avoir soif. D'être quelqu'un qui a envie de, qui a soif de Dieu. Validons l'action de Dieu dans nos vies, l'action de la parole, en prenant position, en validant par notre bouche. Oui, Seigneur, je veux, viens. Voilà, fais-moi marcher dans tes sentiers, fais-moi avancer dans ce fleuve de vie. Tous les hommes de Dieu ont été confrontés à cela. Que ce soit Marthe, Marie, Lazare, Pierre, Paul, etc., on peut lire dans leurs expériences, Dieu les a accompagnés. La sœur de Marthe s'appelait Marie. Il est dit qu'elle était assise au pied de Jésus et puis elle écoutait. Je pense qu'après, elle a aussi mis en pratique. L'ange dit à Ézéchiel, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu es prêt à avancer? Quelle vision prophétique voulons-nous recevoir? Comment est-ce que cette Église peut multiplier les dons spirituels? Qui a envie de s'engager, servir Dieu dans les dons spirituels, dans un service? Qui a envie de se laisser porter par le courant de l'Esprit? Quand je me suis converti, j'avais 22 gens qui disaient « Ouais, Seigneur, ouais. » Tellement d'expériences de vie, tellement de choses extraordinaires m'attendent et nous attendent, pas après pas, étape après étape, le pied, les orteils, les chevilles, les genoux, les reins. Il y a un fleuve de l'esprit, un fleuve de la parole qui coule du trône et de l'agneau. Jésus a souffert, il est mort, il est ressuscité, il a été élevé, il est glorifié, et nous attendons son retour. Et un jour, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. J'y étais il y a 2 ans, on a toute la vue sur Jérusalem, et là, un séisme, quelque chose d'extraordinaire. Non pas pour la destruction du monde, mais pour sa rénovation, pour sa reconstruction. Mais en attendant que tout ce futur prophétique se passe, il y a déjà un aujourd'hui. Il y a déjà aujourd'hui une réalité spirituelle de ce que Dieu est, de ce que Dieu veut faire, qui peut venir dans ma vie. Est-ce qu'on est prêt à entrer individuellement, mais aussi collectivement dans ces vies de l'esprit? Dans Jean chapitre 4, il était dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. C'est pas seulement des questions de lieu, de statut, de phrases qu'on répète mécaniquement. Comment est-ce que l'on peut entrer ensemble dans ces fleuves de vie de l'esprit, des fleuves de chants langues, de chants spirituels, de cantiques révélés, de paroles prophétiques, paroles de sagesse, de révélation, de dons de discernement, de dons de guérison. Chacun peut recevoir de Dieu quelque chose en propre, qui lui sera propre, mais qu'il peut mettre en commun. Le fleuve de Dieu, la source de Dieu, se renouvelle si on mène au don collectivement les uns envers les autres. Tout dans l'Écriture, depuis Éden jusqu'à ce renouveau de Jérusalem, nous dit que Dieu est un fleuve et que ce fleuve va couler. Chacune de nos vies est une habitation, un temple de Dieu. Dieu veut habiter dans ce temple, mais il veut aussi couler au travers de ce temple. Il veut qu'une source coule dans le cœur, dans la vie de chacun. Je vais m'arrêter là, je poursuivrai une autre fois sur ce fleuve qui est pour tous, un esprit de révélation, qu'est-ce que l'eau, la parole, le sang peuvent nous apporter, comment des chants de guérison peuvent, et quels sont les obstacles aussi, pourquoi c'est difficile pour nous parfois de faire ces 3 pas ou d'aller nager dans ce fleuve. Je terminerai avec le chapitre 43 de Ésaïe. Il y aurait tellement de textes à lire sur ce thème du fleuve qu'en tous les cas, moi, parfois, j'ai la tête qui tourne. Et c'est difficile de savoir sur lesquels il faut appuyer. Mais j'aimerais lire avec vous dans Ésaïe, au chapitre 43, les versets 18 à 21. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple. Mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Quand nous sommes dans l'adoration et la louange, Dieu va mettre de l'eau dans nos déserts, dans nos solitudes. Il veut trouver un chemin par des failles, par des brèches, pour réouvrir, remettre à jour une source. Le prochain pas, c'est à nous de le faire. Un pas, deux pas, trois pas, apprendre à nager. Le Seigneur s'avance vers Marthe, il lui a dit, crois-tu cela ? Le Seigneur ce matin vient vers nous, est-ce que tu veux cela ? On veut prier ensemble. Mère Céleste, merci pour cette source, ce torrent, cette rivière, ce fleuve que tu as ouvert à la croix au travers de ce côté percé de Jésus. Merci pour l'esprit, l'eau et le sang qui coulent de ce côté et qui veut ressourcer, renouveler nos vies. Merci de multiplier tes dons, tes services. Merci de nous aider à avancer pas à pas, un pas, deux pas, trois pas. Merci de nous apprendre à nager, à nous laisser porter par ta vie de résurrection, par ton inspiration, par ton onction. Merci de venir nous chercher, de nous confronter chacun à ces paroles et merci de nous appeler à répondre à cette parole, à ces paroles. Merci de la grâce que tu nous fais de nous accompagner chacun dans cette réponse. Amen.